Alors, on continue ensemble le livre des Actes. Donc, nous sommes en Actes 14 et on va lire les 10 premiers versets. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude des Juifs de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds !» Et il se leva d'un bond et marcha. Et la Bible est merveilleuse, elle est merveilleuse. Ce n'est pas en vain que Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » L'homme ne vivra pas simplement du manger et du boire. Il n'est pas simplement ici sur la terre pour nourrir son corps. Mais Dieu lui a donné un esprit et il a besoin de nourrir son esprit. Et la parole de Dieu, c'est ce qui vient nourrir l'esprit de l'homme. C'est ce qui vient rassasier son cœur. Et c'est pour ça que la Bible est merveilleuse. Elle est merveilleuse, la Bible, parce qu'elle s'adresse à chacun d'entre nous. Dieu a toujours quelque chose à nous dire, que ce soit celui qui est vraiment loin de Dieu, celui qui est en marche avec Dieu ou celui qui est proche de Dieu, Dieu a toujours quelque chose à dire. Et notre texte ici s'adresse à tous, hein, il s'adresse à nous. Alors on y voit d'abord des enfants, enfants de Dieu, donc des chrétiens qui avaient été choisis pour être des apôtres, pour être des émissaires de la parole de Dieu. Et en l'occurrence, ici, deux noms, Paul et Barnabas. Donc, c'est le début de l'Église. Elle est en train de grandir petit à petit par le message. Et donc, ces deux apôtres, Paul et Barnabas, allaient de ville en village. Et à chaque fois, ils annonçaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et d'abord, j'aimerais qu'on regarde Paul et Barnabas et on voit leur efficacité dans l'annonce du message. Regardez verset 1. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent dans la synagogue des Juifs, donc ensemble, et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Donc ici, ces hommes n'ont pas simplement partagé la parole de Dieu, l'Évangile, mais ils l'ont partagé de telle manière, il dit, qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Donc, il y avait quelque chose dans leur façon d'expliquer la parole de Dieu, d'annoncer Jésus-Christ, qui a fait que beaucoup crurent dans ce message. Et cette manière spéciale de parler de Jésus ne résidait pas en eux-mêmes, ce n'était pas dans leur capacité naturelle. Ce n'était pas parce qu'ils avaient un art oratoire, un talent particulier. Je lisais dernièrement cette parole de Paul dans Corinthe. Il disait « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais il dit sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Et on voit que le fait d'annoncer la parole d'une manière efficace ne vient pas de l'homme. Il dit, j'étais dans la faiblesse, dans le tremblement, je ne savais pas comment faire. Et il l'annonçait, eh bien, plutôt avec une démonstration de quelque chose qui vient du ciel, avec l'Esprit et avec la puissance de Dieu. Et il faut que le ciel nous fasse la grâce de descendre dans l'homme et de parler au travers des hommes pour nous bénir, pour nous toucher, pour nous faire du bien. Et quand ça se produit, alors tout n'est pas rose. Quand le Fils de Dieu est descendu lui-même, il a marché sur la terre et il a parlé aux hommes, on l'a haï, on l'a détesté, on l'a rejeté. Et quand Dieu parle, alors eh bien, il se produit quelque chose. Il se produit toujours quelque chose. Regardez verset 2. « Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Et la rencontre du ciel avec une humanité qui est pécheresse, qui est dans le péché, ça provoque toujours une double réaction. D'abord, ça provoque la foi, d'une part, pour ceux qui sont sensibles, pour ceux qui sont ouverts. Ils entendent Dieu, ils sont saisis par la vérité. J'entends, je crois, oui, j'accepte la vérité. Et puis, ça produit une autre réaction, c'est le rejet. Parce qu'on ne veut pas écouter Dieu, on ne veut pas écouter l'Esprit de Dieu qui nous dérange par ses paroles. Parce que l'homme est libre, il peut accepter ou il peut refuser le message. Et il y a toujours cette double réaction. Verset 3. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. Et ici, il nous a expliqué comment Paul a pu parler de telle manière qu'une grande multitude crut. Il dit qu'il parlait avec assurance. Et dans le terme ici, il y a l'idée de parler avec liberté, avec une grande liberté. Pourquoi ? Parce qu'il était appuyé sur le Seigneur. Et on voit que Paul ne s'appuyait pas sur lui-même, il ne s'appuyait pas sur ce qu'il était en lui-même, mais il se reposait, il s'appuyait sur Jésus-Christ. Et c'est très touchant quand on connaît un petit peu, on lit la Bible et on connaît l'apôtre Paul. Apôtre Paul, mais enseigné au pied de Gamaliel, c'était un homme qui savait réfuter, hein, qui savait contrer par l'Ancien Testament, par la parole de Dieu. Il était capable, intelligent, une connaissance immense, et pourtant, il ne se reposait pas sur cela. En Philippiens, je vous lis ce passage, il dit « Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans la chair, je le puis bien davantage. » Moi, et puis il commence à citer tout ce qu'il avait reçu, hein, et acquis aussi, toutes ses qualités en fait. Hein, et il dit « Mais tout ça, eh bien, je le regarde comme une perte. » Je le regarde comme de la boue. Je ne veux pas m'appuyer sur ça. Je ne veux pas me reposer sur ça. Et ce que nous sommes naturellement, ça peut être soit un handicap, soit une force. D'abord, ça peut être un grand handicap si on se repose dessus. Parce que c'est ce qui nous empêche finalement de gagner Christ. On se repose en soi et on ne gagne pas Christ. On ne peut pas accéder à Christ. Et Christ ne peut pas vivre librement en nous. Ou ça peut devenir un gain si eh bien, on met tout ça au rebut et on ne compte que sur Dieu. Et à ce moment-là, eh bien, Dieu s'en sert. C'est ce qui s'est passé pour Paul. Dieu ne l'a pas choisi au hasard pour être le docteur qui allait nous enseigner toutes les épîtres, qui allait nous donner toute la doctrine, qui allait faire tous les parallèles avec l'Ancien Testament. Dieu l'a choisi pour ce qu'il était aussi, pour son caractère. Hein. Il est allé partout le monde, conquérir le monde, hein. Il se relevait quand on le lapidait, on le verra peut-être la semaine prochaine. C'était un homme de caractère. Dieu l'a choisi aussi pour ça. Mais Paul a dû apprendre à déposer tout ça au pied de Dieu et à se reposer que sur le Seigneur. Et à ne pas compter sur ses qualités, sur ses forces, sur ses points forts, sur sa personnalité. Il a appris à se confier en Jésus seul. On va le chanter tout à l'heure. En Jésus seul. Et ne dépendre que de Dieu seul. Alors, eh bien, en s'appuyant sur le Seigneur, Dieu se servait de lui. Et de nouveau, regardez, la réaction ne se fait pas attendre. Verset 4, la population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres étaient pour les apôtres. Division. Quand Dieu s'approche des hommes, d'une manière ou d'une autre, il y a division. Les uns sont contre lui ou contre ses enfants, ses apôtres, et les autres s'attachent à lui et veulent le suivre. Jésus nous l'a dit très clairement. Jésus a dit « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » C'est incroyable, hein ? La division. Du fait de cette séparation des uns qui croient et des autres qui ne croient pas, alors il y a division. Dieu ne veut pas forcément la division, hein ? Le but de Dieu, ce n'est pas la division. Mais il y a division. La division arrive parce que les cœurs n'acceptent pas la vérité. Tout le monde n'accepte pas d'entendre des choses vraies sur soi. Ça dérange. On veut fermer nos oreilles. Non, arrête de me dire que je suis pécheur. Alors forcément, ça provoque la division. Et c'est triste, mais c'est inévitable. Chaque homme doit se positionner devant la vérité. Il entend la vérité et il doit faire un choix devant cette vérité. Et il ne peut pas faire autrement que de se positionner. C'est pour, oui, non, c'est contre. Je crois, non, je refuse de croire, je n'accepte pas. L'homme est libre, mais il doit faire ce choix. Et personne n'est neutre devant la parole de Dieu. On ne peut pas dire, ah ben, non, moi je ne prends pas de décision. Ne pas prendre de décision, c'est prendre la décision contre, en fait. C'est reculer. Soit j'accepte, soit je refuse. Mais j'aimerais qu'on voit maintenant ce qui s'est produit dans les cœurs de ceux qui ont cru. Parce qu'il est dit qu'une multitude a cru suite à la prédication des apôtres. Et maintenant, on va regarder une image, finalement, de ce qui s'est passé au travers de ce boiteux de Lystre. Donc, on voit la persécution était grandissante à Icône, et les apôtres, eh bien, ont décidé de fuir. Et c'est intéressant, ça, hein ? On peut en tirer aussi un enseignement. Dieu ne veut pas qu'on joue les fanfarons. Non, moi, je résiste. Hein. Non, à un moment, il faut savoir dire, oh, ok, vous ne voulez pas, je m'en vais. Je m'en vais. Versets 8 à 10. À Lystre, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et fixant les regards sur lui, Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds !» Et il se leva d'un bond et marcha. Donc, on a ici un boiteux que Paul va guérir miraculeusement. Mais au-delà de ce boiteux, finalement, c'est l'image de tous les hommes. C'est l'image de tous les hommes. Ce boiteux, c'est l'image d'un simple pécheur. Et nous sommes tous pécheurs. Cet homme est assis. La raison, c'est qu'il n'arrive pas à se lever. Il ne peut pas marcher correctement, droitement, en équilibre sur ses deux jambes. Il n'y arrive pas, il en est incapable parce qu'il a les pieds tordus. Et depuis sa naissance, son infirmité, il l'a depuis la naissance. Il n'a jamais marché droitement. Il ne peut pas y arriver par lui-même. Et là, vous avez l'image d'un pécheur. Ça, c'est l'image d'un pécheur. La Bible dit que nous naissons pécheurs, tous. On ne le choisit pas, mais c'est ainsi. J'ai 3 enfants, 3 gentils petits pécheurs. Ils sont gentils, mais c'est des petits pécheurs. Et même le plus vertueux des 3 est quand même un pécheur. Et même le plus serviable des 3 est quand même un pécheur. Et si certains péchés se voient peu en eux finalement, hein, il y a des jours, c'est super. D'autres jours, la même personne, mais on voit tout, on voit tout. On voit le péché et c'est les mêmes péchés qu'il y a dans mon cœur et qu'il y a dans vos cœurs. Nous sommes tous pécheurs, nous n'y pouvons rien, nous naissons comme cela. Donc, on est tous des boiteux de naissance, incapables de marcher droitement, d'une manière digne, pure, parfaite, nous sommes incapables. Alors, on a bien des qualités qui peuvent ressortir, de la bonté, un peu de générosité, de la gentillesse, mais le péché n'en demeure pas moins dans notre cœur. Le roi David, dans l'Ancien Testament, a écrit « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Nous sommes nés pécheurs, nous sommes nés dans le péché parce que nos parents sont des pécheurs ou étaient des pécheurs et que leurs parents, nos grands-parents étaient des pécheurs. Et on peut remonter comme ça jusqu'aux premiers parents, Adam et Ève. Ils ont désobéi. Le péché est entré dans leur cœur et ils l'ont communiqué ensuite à toutes les générations et ça remonte jusqu'à nous. Nous naissons pécheurs. Et c'est pour cela que naturellement nous sommes des boiteux. Nous mentons de manière naturelle. Nous trichons. Nous pardonnons peu ou pas. Nous aimons peu. On ne maîtrise pas toujours notre langue. On est paresseux. Parfois on est esclave, lié à certaines choses. Parfois on se détruit et on détruit aussi les autres. On peut se détruire soi-même mais aussi les autres. Et on peut faire la liste comme ça, l'égoïsme, la jalousie. Et tout ça, ça fait que nous sommes des boiteux. Mais si Dieu fixe les regards sur nous, est-ce qu'il voit la foi en nous pour que nous soyons guéris? C'est ça la question. Est-ce que Dieu voit la foi dans votre cœur pour que vous soyez guéris, sauvés? Dieu peut nous guérir de nos péchés. Il peut nous délivrer de nos péchés. C'est incroyable. Mais c'est vrai. C'est vrai. Il peut nous délivrer de nos péchés. Il a la puissance de changer notre vie. Et il peut nous donner une vie qui est nouvelle. Une nouvelle vie. Mais la condition de la guérison, c'est la foi. Il faut croire. Ça, c'est la condition. Au verset 7, regardez, nous lisons « Les apôtres annoncèrent la bonne nouvelle. » Qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle? C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu tordre le cou au péché, si je peux le dire comme ça. Il est venu tordre le cou au péché. Comment? D'abord en vivant une vie parfaite. Jésus n'a jamais péché. Pourtant, c'était un homme comme nous, avec les mêmes faiblesses, avec les mêmes tentations. Les mêmes choses qui pouvaient l'oppresser, les mêmes sentiments. Et il n'a jamais péché. Il est resté parfait durant toute sa vie, il n'a pas cédé. Et pourtant, à la fin de sa vie, il a subi la condamnation d'un pécheur. Il n'était pas pécheur, mais il a subi la condamnation d'un pécheur. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Si on pêche, alors on va mourir. On doit mourir. On sera jugé. Et Jésus n'a pas péché, et pourtant il a reçu un salaire, le salaire du péché. Il est mort, il a été crucifié. Mais lorsqu'il est mort sur la croix, il est mort à notre place. Il a subi notre condamnation. Il est mort pour nous sur la croix. Et si nous croyons en lui, alors Dieu nous pardonne. Dieu nous purifie. Il lave nos péchés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle vraiment pour un pécheur. C'est que Dieu peut le laver là maintenant complètement. C'est la bonne nouvelle. Regardez verset 9. Nous lisons que le boiteux écoutait parler Paul. Ça veut dire qu'il était sensible à ce qu'il entendait, à cette bonne nouvelle. Il écoutait parler Paul, il entendait parler de Jésus-Christ. Il comprenait que Jésus-Christ était mort pour ses péchés. Et il croyait en fait. On le voyait dans son regard, dans sa manière d'être. Il buvait les paroles de l'apôtre Paul. Alors Paul a vu qu'il avait la foi. Et donc la foi pour être guéri, pour être sauvé. Alors Paul a dit au boiteux, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il s'est levé d'un bond et il marcha. Et notre guérison, elle dépend de notre foi. Si vous croyez maintenant à ce message de Jésus-Christ, alors votre guérison, elle est là. Elle est aussi là. Vous êtes boiteux de naissance, mais si vous croyez en lui, Jésus vous guérit de votre infirmité. Jésus peut vous relever et faire que vous marchiez droit dans votre vie et que vous ne continuez pas dans vos péchés. Et si vous le croyez, eh bien après ce message, vous vous lèverez et vous marcherez plus droit avec le Seigneur. Le boiteux ne marchait pas jusqu'à ce qu'il entende le message de Jésus. Il y a cru, et puis il s'est levé, et il a commencé à marcher. Et si on ne marche pas avec Dieu, parce qu'on peut voir aussi cette image d'une manière naturelle, innée, quand on croit en Jésus, alors on peut se mettre à marcher avec le Seigneur. Marcher avec Dieu. Il faut retenir cette expression « marcher avec Dieu ». C'est une expression qu'on retrouve dans la Bible, un peu partout. Et Dieu nous appelle à marcher avec lui, c'est-à-dire à vivre chaque instant en communion avec lui. Quand vous marchez avec quelqu'un dans la rue, vous marchez à ses côtés. Quand vous marchez avec quelqu'un, vous marchez à son rythme. Vous restez à côté de lui. Et c'est comme ça qu'il y a une communion entre vous. Et quand on a cette expression « marcher avec Dieu », eh bien, il y a l'idée d'avoir une communion, d'avoir une intimité, d'avoir une relation avec le Seigneur. Vous marchez avec Dieu, Dieu est avec vous et vous marchez ensemble. Et quand on marche avec le Seigneur, alors on marche dans une vie qui est plus pure, qui est plus droite, hein, qui marche dans l'obéissance, finalement, à la parole de Dieu. Mais nos chevilles ne peuvent se raffermir et nos jambes ne peuvent se redresser et nous ne pouvons nous relever que si nous croyons en lui. Il faut croire deux choses. D'abord, on l'a vu, il faut croire que Jésus est mort pour nous. C'est la première chose, la première étape. Mais ensuite, il faut croire que nous sommes morts avec lui. Croire qu'il est mort pour nous, croire que nous sommes morts avec lui. Deuxième étape. En mourant sur la croix, Jésus nous a d'abord délivrés de la conséquence de nos péchés, c'est-à-dire l'enfer, l'éternité loin de Dieu. Jésus nous a délivrés de cette conséquence. Il est mort pour mes péchés, pour nos péchés. Mais en mourant sur la croix, Jésus nous a aussi délivrés de la puissance du péché. Il veut nous délivrer de la conséquence et de la puissance. Parce que en mourant sur la croix, Jésus nous enseigne aussi une chose, il nous enseigne à mourir à nous-mêmes. Jésus veut qu'on le suive jusque dans la mort. Et cette mort, ce renoncement, conduit à la délivrance de la puissance du péché. L'apôtre Paul a dit, le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Il n'aura pas de puissance sur vous. Il ne pourra pas vous atteindre, en fait, finalement. Pas de puissance. Il perd sa puissance. Donc, vous serez libre. Il dit, vous serez libre. Ça signifie que la croix, et particulièrement notre croix, celle que nous acceptons, celle que nous portons, celle qui signifie notre renoncement, cette croix, elle a pour vocation de nous libérer de nos péchés. Est-ce qu'on est esclave de quelque chose ce matin ? Est-ce qu'on est prisonnier d'un péché qui est récurrent ? La solution, c'est la croix. Si je suis mort, alors je ne pêche plus. Et quand on est mort, alors on ne pêche pas. C'est donc par la croix que nous pouvons marcher avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a un homme qui marcha avec Dieu pendant de nombreuses années. Pour le situer, c'est le père de Mathusalem ou Methuséla. Donc, on a cette expression en France, hein, « vieux comme Mathusalem ». Et je ne sais pas vous, hein, mais moi, j'ai découvert que c'était dans la Bible hein, après ma conversion. En fait, Methuséla ou Mathusalem, c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre. À l'époque, on vivait plus que centenaire, plusieurs fois centenaire. Et cet homme a vécu presque 1000 ans, nous dit la Bible. Et son père a vécu aussi plusieurs centaines d'années. Et c'était un homme exceptionnel, il s'appelait Enoch. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec Dieu. On lit dans la Genèse, Enoch, après la naissance de son fils Methuselah, marcha avec Dieu pendant 300 ans. Marcher avec Dieu pendant 300 ans. Et c'était un homme incroyable en son temps. Pourquoi? Parce qu'il voulait marcher avec Dieu. Donc, il marchait à ses côtés, il marchait à son pas. Il marchait pas trop vite, pas trop lentement. Il était à côté de Dieu et Dieu était à côté de lui. Bien des fois, quand on marche avec le Seigneur, dans notre zèle, on ne marche plus avec lui. Alors, ça peut se manifester par un projet qu'on ne lui a pas remis, par une action qu'on entreprend mais qui ne vient pas de Dieu. On se retrouve alors à devancer Dieu. On est plus loin que là où il est et on ne marche plus avec lui. On va au-delà parfois de ce que Dieu nous demande. On le devance et on n'est plus en communion avec lui. D'autres fois, on traîne les pieds et Dieu veut qu'on avance. Et nous, eh bien non, on refuse d'avancer. Alors, bien, il y a un écart qui se creuse. On ne marche plus avec le Seigneur. On est sauvé. Mais on ne marche plus avec le Seigneur. Et puis, si les cœurs se creusent, eh bien, arrive un moment où on peut même perdre de vue le Seigneur. Il y a un moment où on se dit, mais où en suis-je avec le Seigneur? Et là, Dieu nous appelle à revenir, mais où tu as perdu ta marche? Reviens. Et on revient, oui, là. Et on se repent. Et quand on se repent sincèrement, alors le Seigneur revient là où on était. Il nous reprend par la main. Et il dit maintenant, allez, on recontinue, on marche ensemble. Marcher avec le Seigneur. Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. Et il ne suffit pas de marcher avec lui à ses côtés et à son rythme de temps en temps. C'est que Dieu veut aussi qu'on apprenne à marcher avec lui dans la durée, dans la longueur, en permanence. Marcher tout le temps avec lui. Marcher chaque jour avec lui. À chaque heure avec lui. Et le but du Seigneur, eh bien, c'est de nous amener justement à une communion qui est ininterrompue et qui dure. Souvent on devance, souvent on traîne et on revient et on ne cesse pas de faire ça finalement. Et Dieu veut nous amener à ce que ça sera de moins en moins et qu'on marche avec lui. Enoch marcha avec lui 300 ans. Il était en communion avec son Dieu. Un petit peu plus loin dans le texte concernant Enoch, il est écrit « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. » Ailleurs, on lit qu'il était agréable à Dieu. C'était un homme agréable à Dieu. Donc, on comprend que Dieu a repris Enoch avant qu'il ne meure. Il l'a enlevé dans l'éternité. Mais derrière ces paroles, il y a aussi tout un enseignement pour nous. Enoch était agréable à Dieu. Et il marchait avec Dieu. Et il ne fut plus. Il ne fut plus. Dans la marche avec le Seigneur, il arrive un moment où on n'est plus. Où on disparaît en fait. Parce qu'on marche avec lui. Alors on disparaît. On n'est plus. Et on ne voit plus que le Seigneur. On n'est plus là. Pourquoi? Parce qu'on est mort. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est le but de Dieu. Dieu veut qu'on marche avec lui et qu'on disparaisse. Et que ce soit plus nous. Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus. Et l'homme et la femme qui marchent avec Dieu, portant sa croix, étant crucifié avec Christ, il finit par disparaître ou elle finit par disparaître et on la voit de moins en moins. Ah, on est des pécheurs. Des fois, hop, on entrevoit de nouveau l'homme. Mais le but de Dieu, c'est que on ne vous voit plus. Vous disparaissez. Vous n'êtes plus. Parce que ce qu'on voit de vous, c'est votre péché. C'est votre chair. C'est ma chair. Dieu veut qu'on soit anéanti. C'est le seul moyen d'être vraiment libre, d'être vraiment délivré de nous-mêmes. mort et que lui vive. Et là, dans cette marche, alors on est agréable à Dieu. Ça, c'est le but. C'est notre but à tous. C'est notre but, c'est notre vocation. C'est Dieu nous attire, il nous dit, allez par là. Vous serez libres, allez par là. Dieu nous prend tel que nous sommes, tous boiteux de naissance. Et il nous sauve d'abord des conséquences du péché. Jésus est mort pour pardonner tous vos péchés. Croyez en lui, vous serez pardonnés, vous serez sauvés. Vous allez entrer dans une vie nouvelle. Vous allez vous lever et vous aurez la force de marcher. Mais ensuite, Dieu veut que nous marchions avec lui. On ne peut pas marcher avec lui tant qu'on n'est pas guéri et sauvé. Mais ensuite, Dieu nous appelle à marcher avec lui. Dieu ne nous guérit pas de notre infirmité pour qu'ensuite nous continuions à marcher notre vie chrétienne en boitant à cause de tel et tel péché. Si Dieu vous sauve et affermit vos jambes, c'est que vous, pour que vous marchiez avec lui et que vous marchiez droitement avec lui et que je marche droitement avec lui. Et cette marche, elle passe par la croix. Peut-être qu'en chemin, nous avons oublié que la vie chrétienne passe par la croix. Peut-être ce matin, la croix vous dérange. Elle vous dérange dans votre vie. Et vous ne l'acceptez pas, vous n'êtes pas prêt à renoncer, à le suivre, vraiment. Mais il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y en a pas d'autre. C'est la finalité. Si quelqu'un veut être mon disciple, dit Jésus, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et on ne devrait pas le suivre sans la croix. Normalement, on ne devrait pas le suivre sans la croix. Et pourtant, je sais comme vous, par expérience, que nous pouvons le suivre sans prendre notre croix. On le suit, mais on ne prend pas notre croix. Ou on choisit notre croix. C'est-à-dire, j'accepte la croix là, dans ce domaine, mais là, non. Là, il n'y a pas la croix. Là, je veux bien la croix, mais pas ici. Quand Abraham a reçu de Dieu cet ordre, « Prends ton fils, va sur la montagne que je te montrerai, et tu vas faire le sacrifice là-bas. » Abraham ne pouvait pas choisir sa croix. C'était celle-là. Il n'y en avait pas d'autre, c'était celle-là. Et nous, parfois, eh bien, on voudrait changer de croix. Pas celle-là, celle-là. Et Dieu dit non. La croix, c'est la croix. C'est celle que je te présente, elle est devant toi. Accepte-la. Et quand on passe par cette croix, alors on entre dans une bénédiction bien plus grande. Abraham, juste après qu'il ait fait ce sacrifice d'Isaac, ou qu'il ait eu l'intention de le faire, finalement, qu'il l'ait offert véritablement dans son cœur, Dieu a dit, parce que tu as fait cela, alors, pam, 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 pam. Et il y a toute la liste des bénédictions qui pleuvaient sur Abraham, le père des croyants, parce qu'il a accepté sa croix. Et il nous faut accepter notre croix. Dieu veut que nous soyons en bénédiction autour de nous, à nos proches, à notre famille, à notre entourage. Mais il faut passer par la croix, revenir peut-être à la croix. Alors, est-ce que vous êtes encore boiteux ce matin? Boiteux parce que Dieu ne vous a jamais guéri de vos péchés. Et vous savez, vous péchez dans votre vie. Vous voyez le péché. Vous ne vous délivrerez pas vous-même. Vous serez pécheur comme cela, et peut-être même pire si vous continuez dans vos péchés. Mais Jésus-Christ est venu et il est mort à votre place pour vous pardonner vos péchés, pour vous sauver et pour vous faire entrer dans une vie nouvelle, une vie plus libre, une vie où vous pourrez marcher avec lui. Ou bien est-ce que vous êtes guéri et pourtant encore boiteux. Alors le Seigneur, eh bien, nous dit à chacun, on peut dire, Dieu dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds, crois, donne-toi. » On va s'incliner dans la prière.